tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1930-1940, vous entendrez de Kurt Weill la symphonie nocturne.
Une espérance ouvrant les horizons, par John Berger. Il n'est pas bien vu, même chez les tenants du capitalisme, d'être par trop matérialiste. Car un appétit un peu vif pour le concret semble fermé à ce qui échappe au calcul. Mais les tenants des révolutions anticapitalistes sont également soupçonnés d'ignorer toute transcendance. Or, leur combat témoigne au contraire de la puissance spirituelle de leur quête, tendue vers l'embellissement de l'humanité. Les photos viennent de Varsovie, Berlin, Leipzig, Budapest, Bratislava, Riga, Sofia. Chaque peuple montre une façon un peu particulière de se tenir au coude à coude dans les manifestations de masse. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui ne se laisse pas voir. Comme la plupart des moments de grand bonheur, les événements de l'année 1989 en Europe de l'Est étaient imprévisibles. Bonheur ? Mais est-ce vraiment le mot juste pour décrire cette émotion partagée par des millions de gens ? N'y a-t-il pas quelque chose de plus grave que le bonheur ? Alors que j'écris, je revois ce train quittant Prague 20 ans plus tôt. C'était comme si nous quittions une ville dont chaque pierre, de chaque immeuble, était noire. J'entends encore les paroles d'un dirigeant étudiant lors du dernier meeting. Quels sont les projets de ma génération pour cette année 1989 ? Adopter un courant de pensée politique opposé à toutes les formes de stalinisme, sans toutefois se laisser mener par les rêves. Rejeter l'utopie de la nouvelle gauche, car avec de tels rêves, nous serions vite enterrés. Maintenir, comme nous le pourrons, les liens avec les syndicats. Continuer à travailler pour préparer l'instauration d'un autre modèle socialiste. Il se peut que nous mettions un an à y parvenir, peut-être 10 même. Aujourd'hui, ce leader étudiant a la quarantaine et Alexander Dubček est président de l'Assemblée. Beaucoup disent que c'est une révolution ce qui se passe à l'Est. Le pouvoir a changé de main sous la pression politique de la base. Les États se transforment économiquement, politiquement, juridiquement. Les élites dirigeantes se voient délogées. Que faut-il de plus pour faire une révolution ? Rien. Cependant, celle-ci ne ressemble à aucune autre des temps modernes. Tout d'abord parce que l'élite au pouvoir, sauf en Roumanie, n'a pas pris la contre-offensive. Elle a abdiqué ou renié son parti. Et aussi parce qu'elle se fait sans illusion utopiste. Pas à pas, mais avec l'espoir d'un retour. Vers le passé, vers une époque antérieure aux révolutions précédentes. Non, impossible. Ce sont seulement les toutes petites minorités qui demandent l'impossible. Mais qu'est-ce qui vient de disparaître ? Le mur de Berlin ? Le système de parti unique ? Le parti communiste ? L'armée rouge d'occupation ? La guerre froide ? Quelque chose d'autre, qui existait avant tout cela, mais qu'il est plus difficile de nommer, a également disparu. Des voix ne vont pas se faire faute de nous dire que c'est l'histoire, l'idéologie, le socialisme. De telles réponses ne sont pas convaincantes, car elles proviennent de ceux qui prennent leurs désirs pour des réalités. Néanmoins, quelque chose de gigantesque vient de prendre fin.
Beaucoup disent que c'est une révolution, ce qui se passe à l'Est. Cependant, celle-ci ne ressemble à aucune autre des temps modernes.
Nouvelle énergie prométhéenne. Durant deux siècles, on a ouvert le monde, on l'a unifié, modernisé, créé, détruit et transformé à une échelle inconnue jusque-là. Ces transformations ont trouvé leur énergie dans le capitalisme. L'intérêt personnel, au lieu d'être considéré comme une banale faiblesse humaine, fut transmué en héroïsme. Beaucoup s'opposèrent à cette nouvelle énergie prométhéenne au nom du bien général, de la raison, de la justice. Mais les disciples de Prométhée et leurs adversaires avaient certaines croyances en commun. Ils croyaient tous au progrès, à la science, à un nouvel avenir pour l'homme. Chacun avait sa panoplie personnelle de croyances. C'est une des raisons pour lesquelles on put écrire tant de romans. Mais tous étaient tributaires de systèmes fondés exclusivement sur une interprétation matérialiste de l'existence. Le capitalisme, selon les doctrines de ses philosophes, Adam Smith, David Ricardo, Herbert Spencer, reposait sur une pratique régie uniquement par des considérations et des valeurs matérialistes. Ainsi fut marginalisé le spirituel. Ces interdits et justifications furent écartés par les priorités données aux lois économiques, des lois qui revêtirent l'autorité des lois naturelles. La religion officielle devint théâtre de l'échappatoire, tournant le dos aux conséquences réelles, bénissant principalement les puissants. L'opposition socialiste, qui n'était pas dupe de cette rhétorique, insista sur la pratique. Là réside le génie de Karl Marx. Il démonta la pratique pièce par pièce, jusqu'à mettre à nu une bonne foi aux yeux de tous. L'étendue choquante de cette révélation conféra au matérialisme historique une autorité prophétique. Là résidait le secret de l'histoire et de toutes ses souffrances. Tout dans l'univers allait pouvoir être expliqué et résolu sur une base matérielle ouverte à la raison humaine. L'égoïsme lui-même allait devenir démodé. Néanmoins, l'imagination humaine éprouve de grandes difficultés à vivre les confins que délimite une pratique ou une philosophie matérialiste. Elle rêve, comme un chien dans son panier, de lièvre en liberté. Ainsi donc, durant ces deux siècles, l'élément spirituel persista-t-il, mais sous des formes nouvelles, marginalisées. Prenez l'exemple de Giacomo Leopardi, qui naquit en 1798. Il allait devenir le plus grand poète lyrique d'Italie. C'était un rationaliste et il étudia l'univers en matérialiste. Néanmoins, sa tristesse et le stoïcisme avec lequel il l'endura devinrent, à l'intérieur même de sa poésie, plus vaste que l'univers. Plus il insistait sur la réalité matérialiste qui l'entourait, plus sa mélancolie devenait transcendante. De la même façon, des gens qui n'étaient pas des poètes tentèrent de trouver exception au matérialisme qui dominait à l'époque. Ils créèrent des enclaves de l'au-delà pour ce qui ne cadrait pas avec les explications matérialistes. Des visionnaires transcendants. Ce qu'elles contenaient, ces formes de l'au-delà protégées dans des enclaves, variaient énormément selon l'époque, la classe sociale, les choix personnels, la mode. Romantisme, renaissance du gothique, végétarianisme, Rudolf Steiner, l'art pour l'art, théosophie, sport, nudisme. Chaque mouvement sauvait pour ses adeptes des fragments du spirituel qui avaient été bannis. Le fascisme opéra de la même façon. Personne ne devrait présumer que le mal ne possède pas des pouvoirs spirituels. Cependant, la forme spirituelle marginale la plus originale de l'époque fut la foi transcendante et pourtant séculière de ceux qui se battaient pour la justice sociale. Cette lutte va du Club des Cordeliers pendant la Révolution française aux marins de Kronstadt et à celle de mes amis étudiants de Prague. Elle englobait des individus de toute classe sociale, depuis les paysans illettrés jusqu'aux professeurs d'étymologie. Leur foi était muette, en ce sens qu'elle ne s'exprimait pas à travers des déclarations rituelles. Spiritualité implicite, qui sans doute fut à l'origine de plus d'actes de sacrifice individuel volontaire, de véritable noblesse, mot qui eut sans doute fait frémir plus d'un parmi eux, que tout autre mouvement historique de cette époque. les explications et stratégies de ces hommes et de ces femmes étaient matérialistes, mais leurs espoirs furent ceux de visionnaires transcendants. Dire, comme on l'affirme souvent, que le communisme était une religion, ce n'est rien comprendre. Ce qui comptait, c'était que les forces matérielles dans le monde incarnaient pour des milliers de gens, et c'était sans précédent, la promesse du salut universel. Si Friedrich Nietzsche avait annoncé que Dieu était mort, ces millions de gens pensaient qu'il se cachait dans l'histoire et que si tout ensemble, ils parvenaient à porter le poids du monde matériel, alors les âmes auraient à nouveau des ailes. Leur foi traça pour l'humanité un chemin à travers les ténèbres ordinaires de la planète.